VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Midi à Bamako, 13h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En RDC, le choléra progresse dans la province du Sud Kivu, dans l'est du pays. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Mwanza Nangunia, tire la sonnette d'alarme et exhorte les populations à prendre en urgence des mesures d'hygiène.
Depuis des semaines, nous connaissons une flambée des cas de choléra sur presque toute l'étendue de la province du Sud Kivu. La zone de santé de Fizi passe en tête avec 77 cas. Nous sommes à environ 35 cas dans la ville de Bukavu. Et jusqu'ici, nous avons des cas de décès dans les structures médicales. Il peut y avoir d'autres cas, mais qui n'ont pas été déclarés. Lorsque vous avez un cas de diarrhée et de vomissement, il faut amener les malades à l'hôpital général de Bukavu où il sera pris en charge gratuitement.
Le docteur Mwanza Nangunia, ministre de la Santé de la province du Sud Kivu en RDC. Et toujours dans ce pays, 40 morts. Tel est le bilan d'un glissement de terrain mercredi qui a englouti un village de pêcheurs en Ituri sur le versant occidental du lac Albert dans le nord-est de la RDC. Des pans d'une montagne se sont affaissés sur un camp de pêcheurs à la suite d'une forte pluie qui a provoqué un glissement de terrain sur le bord du lac Albert. Il y a eu 40 morts dans la localité de Tora, a déclaré à l'AFP Pacifique Keta, vice-gouverneur de la province de l'Ituri. En Sierra Leone, les habitants observent une semaine de deuil national en hommage aux morts, dont plus de 100 enfants, emportés par les coulées de boue et les inondations qui ont frappé lundi Freetown. Les deux priorités des secouristes dans la capitale, dégager les victimes des décombres et aider les sinistrés, selon Gina Moulissa.
Les efforts se poursuivent pour retrouver les corps de 600 disparus, parfois à l'aide d'engins de chantier, parfois avec des outils de fortune. À la morgue centrale, les habitants tentent d'identifier leurs proches dans des amas de corps. Abdoul Nassir de la Croix-Rouge internationale a expliqué que quand les os s'y sont retirés, ils ont trouvé 15 corps mutilés en décomposition sous un pont effondré à Lumlé, un quartier du bas de la ville inondée lundi. Ils pensent que le bilan sera plus élevé que les 312 morts officiellement recensés. Des responsables à la morgue centrale de la capitale sierra-léonaise parlent déjà d'au moins 400 morts. Mohamed Siné Kamara, un employé de la morgue, a précisé que ce service a reçu les corps des 105 enfants. Selon Adèle Fox, coordinatrice santé pour l'ONG Concern Worldwide, il y a un besoin en nourriture, en eau, en équipement sanitaire et en aide médicale. Compte tenu de la saison des pluies, d'autres inondations sont encore possibles, a-t-elle prévenu. L'aide internationale a commencé à arriver en Sierra Leone à l'intention des milliers de survivants désormais sans abri.
Au Nigeria, le siège de la Commission nigériane des crimes économiques et financiers à Abuja, la capitale, a été attaqué mercredi par des hommes lourdement armés qui ont tiré sur la façade et dans le parking sans faire de victimes. Le point avec Anastasie Todiech.
L'attaque a eu lieu mercredi matin vers 5h heure locale. Selon les autorités, les assaillants se sont enfuis en déposant une lettre de menace de mort à l'encontre d'Ishaku Charu, l'un des principaux enquêteurs de la commission. Monsieur Charu est en charge de nombreux dossiers compromettants pour plusieurs personnalités politiques et militaires nigérianes de premier plan. L'incident survient quelques semaines après la tentative d'assassinat d'un autre inspecteur, Austin Okwar, à Port Harcourt. Depuis 2 ans, l'agence anticorruption enquête sur les détournements présumés commis par de nombreux responsables politiques et des sociétés parapubliques. D'énormes sommes d'argent ont été saisies, des propriétés confisquées, mais peu d'affaires ont abouti à des condamnations en justice jusqu'à présent.
Afrique de l'Ouest toujours, la Cour pénale internationale, la CPI, a déclaré ce jeudi que le djihadiste malien Ahmad Al-Faki Al-Mahdi avait provoqué pour 2 700 000 euros de dégâts en faisant détruire les mausolées de Tombouctou dans le nord du Mali en 2012. Le tribunal de La Haye a ordonné le versement de compensation pour dédommager les victimes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique australe, le gouvernement du Zimbabwe a requis l'immunité diplomatique pour la première dame zimbabwéenne Grace Mugabe, accusée d'agression contre un mannequin en Afrique du Sud. Les détails avec Yakuba Ouedraogo.
Selon les détails livrés hier par le ministère sud-africain de la police, Grace Mugabe avait initialement convenu avec les autorités de se présenter d'elle-même mardi dans un commissariat de Johannesburg. Cet arrangement devait lui permettre de présenter sa version des faits avant que le parquet ne se prononce sur l'ouverture éventuelle d'une enquête. Elle y a par la suite renoncé et décidé d'invoquer l'immunité diplomatique en tant qu'épouse du président Robert Mugabe. Le ministre de la Police a aussi précisé que la première dame du Zimbabwe n'a pas quitté le territoire sud-africain, comme le disent certains médias. Madame Mugabe est accusée d'avoir frappé et blessé Gabriela Angel, une mannequin qui se trouvait dans le même hôtel qu'elle, dans un quartier de Johannesburg. Cette affaire menace de perturber les relations traditionnellement bonnes entre l'Afrique du Sud et son voisin. Hier, des négociations étaient toujours en cours entre les deux pays pour trouver une issue à cette embarrassante affaire.
Kenya, plusieurs missions d'observation des élections du 8 août dans le pays ont exhorté la Commission électorale nationale ce jeudi à publier au plus vite l'intégralité des procès-verbaux des 40 883 bureaux de vote, indispensables pour corroborer les résultats officiels de la présidentielle contestée par l'opposition. L'opposition a annoncé mercredi son intention de saisir la Cour suprême d'ici l'expiration du délai légal demain vendredi pour contester la réélection du président Uhuru Kenyatta avec 54,27% des voix. Victoire que les opposants jugent ont taché de nombreuses fraudes. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a démantelé deux commissions consultatives composées de chefs d'entreprise prestigieux. Un nombre croissant de membres de ces commissions avaient de toute façon annoncé leur démission pour protester contre la réaction du chef de l'exécutif qui avait renvoyé dos à dos les groupuscules de ces suprémacistes blancs impliqués dans des violences raciales à Charlotteville, en Virginie, et les contre-manifestants antiracistes. États-Unis toujours, les incidents de Charlottesville en Virginie où une femme de 32 ans a été tuée par un militant d'extrême droite ce week-end a relancé le débat sur les statues et monuments rendant hommage aux soldats confédérés. Il serait au moins 718 à travers les États-Unis, surtout dans le sud. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint Ibrahim Assek, historien sénégalais et directeur de recherche du musée Whitney Plantation à la Nouvelle-Orléans.
Je crois que ces groupes extrémistes appartiennent à un groupe beaucoup plus large de gens, originaires du Sud, mais peut-être pas tous, qui jusqu'à présent ne peuvent pas digérer leur défaite dans la guerre civile et qui ne peuvent concevoir aucune forme de promotion ou d'égalité des droits avec les Noirs qui étaient leurs esclaves. Ils vivent dans le passé, ils restent dans le passé, et tout est bon pour avoir une sorte de revanche sur l'histoire. Ces statues qu'ils protègent aujourd'hui ont été construites, bien sûr, pendant la période Jim Crow, c'est-à-dire pendant la période de ségrégation raciale, pendant qu'ils lynchaient les Noirs et qu'ils leur déniaient les droits les plus élémentaires. Ils ont aussi construit des monuments pour glorifier les soldats du Sud, les grands dirigeants du Sud.
Oui, justement, le Sud a perdu la guerre de sécession. Pourquoi ces statues se retrouvent toujours dans des espaces publics et non peut-être dans des musées, comme le recommandent certains?
C'est la faute au Congrès américain, c'est la faute à la Cour suprême, mais aussi à l'exécutif, parce qu'ils ont passé tout leur temps, depuis les pères fondateurs, que ce soit George Washington ou Thomas Jefferson et les autres qu'on glorifie aujourd'hui, ils ont passé tout leur temps à violer la Constitution américaine. L'esclavage est une violation flagrante de la Constitution américaine. Alors, même après l'esclavage, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, ici à la Nouvelle-Orléans, c'est ici qu'est né le cas Plessy contre Ferguson, le fameux cas de jurisprudence qui a légitimé la ségrégation raciale.
La ville de Baltimore, dans le Maryland, a démonté ses statues la nuit de mardi à mercredi. Vous pensez que d'autres villes vont suivre?
Absolument, d'autres villes vont suivre et c'est un processus irréversible. Ça a commencé par la Nouvelle-Orléans. Curieusement, tout commence par la Nouvelle-Orléans. Parce que la majorité est pour que ces monuments-là soient démontés et transportés ailleurs. C'est un mouvement irréversible. Vous voyez tous ces extrémistes qui se démènent comme de beaux diables. C'est comme un animal qui meurt. Un animal qui meurt bouge beaucoup, mais il va mourir sûrement.
L'historien sénégalais Ibrahim Assek, joint à la Nouvelle-Orléans. Et pour terminer, conflit en Afghanistan, un soldat américain a été tué dans le pays lors d'une opération visant le groupe État islamique. C'est ce qu'ont déclaré ce jeudi les forces américaines à Kaboul. Ce décès porte à 10 le nombre de soldats américains tués en action sur place cette année, soit un de plus qu'en 2016. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.